accepté, soit plus facile pour nous, une femme et des enfants qui voyagent seuls, si même cela n'est pas prudent à notre époque. Charles accepte, une fois qu'ils ont fini la famille, sortie de la maison. Une fois dehors, elle va derrière la maison et revient avec une petite charrette tirée par un cheval. Ils mettent les valises et les enfants dessus. Charles les suit. La femme marche à pied en tenant les rênes. Soyez sages, les enfants. Nous voilà partis sur les routes comme des pauvres miséreux à cause de cette guerre. Insensé, elle hausse ses épaules. Mon mari était gendarme et moi je l'aimais. Je tenais une mercerie. N'étions pas malheureux? Il est mort d'un accident de voiture, le pauvre. Maintenant, je vais chez ma sœur à Grenoble. C'est une vieille fille, ma sœur. Elle a hérité d'un grand appartement de ses parents. Le voyage se passe sans encombre, il fait beau et chaud. La route est déserte, mais ce calme, ce silence inquiète Charles. À midi, ils se sont arrêtés dans un champ pour manger. Tout en mangeant, sous un tronc d'arbre, la mère, qui sert les huitouailles, voit que Charles se sent là et triste. Faut pas se laisser abattre comme ça. Regardez-moi. Je n'ai pas le temps pour m'occuper de mes enfants, les surveiller, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Les nourrir, les vêtir, et quels que soient les événements, tout à coup, vient vers eux un avion qui les mitraille. Ils vont tous se cacher sous un arbre. Malheureusement, un des enfants est resté. Il s'est couché à terre dans l'herbe, il est resté. Charles a couru à lui et s'est couché sur lui pour éviter qu'il reçoive les coups. Il reçoive les balles. Thank you. sont sortis indemnes de cet incident, de cet incident qu'ils ont eu de leur voyage. Voyager pendant 2 jours, ensuite ils sont arrivés à Grenoble. La ville semble calme. Bon, eh bien, je m'en vais vous laisser. Comment nous laisser? Venir avec nous? Vous restez quelques jours avec nous, chez nous, avant de partir? Charles hésite. Elle le prend par le bras. Charles les suit. La sœur habite boulevard d'Embêtant. Un petit 3 étages d'un vieil immeuble. Qu'allons-nous faire du cheval, demande Charles. Je ne sais pas, nous verrons bien. Venez, les enfants. Et Charles les suit. Ils entrent dans l'immeuble. Ils entrent dans l'allée. Ils portent chacun une valise plus un sac de voyage. Ils montent les escaliers. Et sonne. Ouvre une vieille dame, petite, maigre, à chignon gris, qui a une fenêtre, une robe bleu marine à col blanc. L'appartement sent la naphtaline, la rose, et on entend un carillon, ou plutôt une horloge. Les deux femmes s'embrassent. Bonjour Marie, t'as fait bon voyage? Oui, merci. Et ceci grâce à monsieur. Charles fait non avec le bras. Sa soeur se tourne vers lui. Je présente monsieur Toutebord, qui a voyagé avec nous. Ça me ferait très plaisir si tu pouvais le garder ici pour quelques jours. Oui, bien sûr, oui, il est bienvenu. Elle leur montre leur chambre. Voici ta chambre. Merci. Ça, c'est la chambre des petits. Et puis pour le monsieur, ben, j'ai encore cette chambre. Voilà. Elle leur montre aussi la salle de bain. pendant que Charles et les enfants sont dans leur chambre, les deux sœurs sont au salon. C'est une grande pièce avec de vieux meubles sombres, usés, mais très soignés. Elles sont toutes les deux assises. Sur des chaises près de la fenêtre. Marie a raconté à sa sœur comment elle a connu Charles et leur voyage. Tu comprends? Je veux faire autrement que demander à ce que tu l'héberges. Oui, bien sûr. Il est pas mal de sa personne. Marie sourit. Peut-être qu'un jour, il est peut-être un peu jeune pour moi, non? Oh, tu sais. Charles, dans la journée, voit sur le piano du salon deux photographies représentant deux adolescents d'une quinzaine d'années, un brun et un blond. Les deux photographies troublent Charles. Il se demande qui sont ces deux jeunes gens qui lui rappellent quelque chose. Mais quoi ? Marie, voix pensif, devant ses photos, et lui demande « Pourquoi ?»« Je ne sais pas, mais ces deux portraits me disent quelque chose. Mais quoi ? Ce sont des portraits de mes deux neveux. Ils sont pas frères, tous les deux. Le blond, c'est Marc, le brun, c'est Florin. Deux gamins impossibles. Mais je me souviens, dit Charles, c'est avec eux que tout a commencé. Dans la soirée, Marie va faire des courses à l'épicerie du coin. Juste au moment où elle vient partir, les troupes du Nord envahissent Grenoble. Alors c'est l'horreur, comme à Lyon, les bombardements et tout.
Il ne s'agit pas d'une manœuvre, mais d'une véritable attaque. Les avions japonais vont...
Ça, y a rien à faire, je peux pas sortir de munitions.
Tu vois pas ce qui se passe?
Charles, les deux enfants et la tante se sont mis à l'abri dans la cave. Une fois à la cave avec tous les autres locataires, Bruno se met à hurler « Hé maman, ne fais pas de soucis, je vais la chercher », dit Charles. Il sort de la cave, de l'allée.
« En munitions, toi en position là-bas !» Dirigez bien votre tir, visez en avant.
Et juste où il sort de la cave, dans l'allée, il entend comme des cris pour une personne qui souffre. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Madame! Charles monte à l'étage et voit deux soldats nordistes qui essayent de violer Marie, qui est sous eux et qui se débat. Lâchez cette femme! Crie Charles. Les deux hommes le regardent. L'un a déjà mis en bas son pantalon et son slip.
Tiens!
Tu lui as dit à l'autre, occupe-toi de lui. Moi je m'occupe d'elle. Il se penche sur la femme qui se défend comme elle peut. L'autre, de sa cravache à la main, avance. Charles. Recule. Et l'homme tire. Charles tombe. Il est blessé. Il est blessé à la jambe. Il ne peut rien. Il ne peut pas avancer. La femme se débat toujours comme elle peut. Et tu dis, c'est à moi maintenant. J'en ai assez. Se dégage et c'est l'autre qui se reculotte et l'autre prend sa place. L'autre, la pauvre femme, se débat comme elle peut. L'autre dit, arrête, arrête, ça suffit, arrête de gesticuler. Hein? Il prend son revolver. La femme ne bouge plus. L'homme a joui et deux hommes se sauvent en courant. Charles a tout vu. Mais les moitiés évanouis n'a rien pu faire, ni crier. La femme a le visage fixe, horrifié, la bouche ouverte, les cheveux défaits, la tête pleine de sang, jambes écartées, avachies à terre. Deux heures plus tard, les locataires ont retrouvé le corps de Marie et Charles est parti en boitant. Cela suffit, j'en ai assez, assez. Ils traînent dans les rues, au milieu des débris, des blessés.
C'est bon, c'est bon. C'est bon, je vais le faire, les enfants.
Il veut se sauver de cette ville, de ce monde. J'en ai assez, j'en ai assez. Il boite, il a mal. Il décide d'enlever la balle qu'il a à la jambe.
Oh, c'est bon, c'est bon. C'est tout bon, je vais le faire, vous avez.
C'est qui me bombarde?
Tu l'avais fait là, oui.
Il entre dans une pharmacie en ruine. Plant un flacon d'alcool à 90 degrés. Trouve un morceau de fer tranchant. Va au fond de la boutique, trouve une porte qui donne dans un restaurant, dans un restant de chambre. S'assoit sur le lit, déchire son pantalon. Se fait un garrot, ouvre la bouteille d'alcool. On met une grande rasade sur sa jambe, d'alcool,
c'est loin, c'est loin.
Sur la blessure.
C'est au point de chemin de fer qu'ils en veulent.
C'est qui
qui
nous...
Ça le fait.
Tu l'as
fait
là, oui.
Hurler de douleur. Avoir repris ses esprits, il nettoie à l'alcool le morceau de fer, morceau de fer tranchant, en essayant de trembler le moins possible. Mon Dieu, tenez-moi la force de le faire. Il entre le morceau de fer dans la plaie, puis il retire la balle. La balle est sortie, encore de l'alcool. Il nettoie sa jambe, la panse avec un morceau de tissu imbibé d'alcool. Il a tout juste le temps de faire ce travail qui s'est évanoui. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.